Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Énormément de choses, donc sans plus attendre, bonsoir mon cher Hugues.
Bonsoir mon cher Hugues.
Et bonsoir à Laurent Nélissen qui est avec nous ce soir pour fact-checker toutes les bêtises que nous allons raconter jusqu'à 20h.
Heureusement qu'il est là. Ah.
Donc dès la semaine prochaine, ça sera la pause de printemps, mais on ne vous abandonne pas complètement puisqu'on va vous proposer en podcast toute une série de best-of autour de thématiques que nous avons
concoctées par les doigts de fée de Zoé Boss qu'on remercie.
Absolument.
Voilà.
Donc ça, dès lundi. Et on se retrouvera en ce qui nous concerne le 13 mai, je pense, c'est ça, le 13 mai.
Voilà.
Alors, mon cher Hugues, je vous l'avais annoncé, je sais que vous êtes très très impatient. J'ai une boîte à chatons qu'il faut absolument déstocker afin de pouvoir la remplir à nouveau dès notre retour dans 15 jours.
Énormément de jeunes chanteuses qui frappent à la porte.
Exactement. Sur lesquelles je n'ai absolument rien à dire. À savoir, le meilleur argument, c'est de les écouter. Ce sont des filles qui débarquent et qui ont d'entrée de jeu avec très très peu de chansons, forcément, puisqu'elles débarquent. Ce sont des artistes qu'on appelle en développement, pour parler techniquement. Mm-hmm. Voilà, ces jeunes filles arrivent et d'entrée de jeu, elles imposent un univers étonnant, un univers original qui parle de lui-même. Donc, je n'ai pas trop envie de vous dire...
De gloser.
Leur maman fait ceci, leur papa a fait cela, elles ont travaillé avec ceci, elle a été serveuse avant de faire cela. La première qui se présente à nous, elle s'appelle Natalie Madigan. Elle vient de Nashville, elle est donc américaine. Et sa chanson a pour nom Six Strings, c'est Natalie Madigan. Six strings and he plays them how I wanna. Natalie Madigan, qui est un peu la Sylvie Kreutz du Tennessee.
Oui, qui a aussi écouté Lana Del Rey. Donc.
Elles ont toutes dans écouté sa salle Lana de bain. Del Rey. C'est complètement fou. Même le dernier album de Taylor Swift, en fait, à moitié un album de Lana Del Rey.
Sacré Lana. Et ses motards. Ouais. Sacré Lana et ses motards. Ils devraient faire un groupe Lana and...
And the Bikers.
Alors, on continue l'exploration des films qui sortent mercredi prochain en salle.
Vous savez, je veux quand même vous l'annoncer, son tour manager l'a planté. Donc, ils travaillaient ensemble depuis 28 ans et il l'a quitté parce qu'il n'était pas d'accord avec cette histoire de motard. Mais qu'elle voulait absolument arriver assise sur des motos avec des motards pour son entrée sur scène à Coachella. Il n'était pas d'accord, il lui a envoyé un mail en disant « je m'en vais ».
Ça suffit.
Ouais. Un mois avant, il est parti.
Les motos qui fâchent.
Donc, elle a dû trouver quelqu'un très, très rapidement.
Oh là là, les motos qui fâchent. Bon, alors, donc, exploration des films qui sortent mercredi prochain en salle. On a déjà évoqué Challengers avec Zendaya. On a évoqué le remake de Duellier. J'en viens à évoquer le deuxième long-métrage réalisé par Viggo Mortensen. Alors, vous allez me dire, quoi ? Deuxième, il y en a eu un premier. Oui, il y a eu un formidable premier long-métrage écrit et réalisé par Viggo Mortensen, qui s'appelait Falling, où il incarnait...
Victime du Covid, le film, non ?
Complètement victime du Covid, mais a rattrapé sur je ne sais quelle plateforme, mais très très belle réussite, où c'était une relation extrêmement difficile entre un fils et son père. Le fils est homosexuel, et le père, joué par Lance Henriksen, est un vieil homophobe absolument imbuvable, mais malade. Et donc le fils devait malgré tout s'occuper de son père parce que il estimait que c'était de son devoir. Falling, très très beau début donc derrière la caméra de Viggo Mortensen. Et pour son deuxième film, qui arrive donc mercredi, qui porte les deux titres sur les affiches. Le titre anglais, The Dead Don't Hurt, et le titre français qui n'a rien à voir, Jusqu'au bout du monde. Et pour son deuxième film, il change de genre et il développe un western. On est en 1860 et un cow-boy d'origine européenne, d'origine danoise, mais comme Viggo, Holger Olsen, tombe amoureux d'une jeune Canadienne, Vivienne. Vivienne est, qui est jouée par l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, qui mène qui est un petit peu mon petit chaton à moi.
Vigo, vous savez, Vicky. Vigo est un peu votre chaton aussi.
Voilà. Et donc, toujours est-il que Vicky Krieps donc, joue ici une Canadienne francophone. Et l'alchimie opère entre deux à tel point que Holger, donc ce cow-boy, parvient à convaincre cette jeune femme qui a une vraie force de caractère et une vraie indépendance d'aller, d'où le titre français, jusqu'au bout du monde, mais vraiment dans un coin reculé du Nevada, où il a la possibilité, pour pas cher, d'avoir un terrain, de créer une ferme sur un endroit a priori assez aride. Et toujours est-il que, alors que le bonheur était en train de bien infuser dans ce couple, eh bien, ce personnage, Holger Olsen, qui est un homme de devoir, la guerre de sécession arrive et il décide de s'engager et donc de laisser là sa femme seule dans cette ferme qui, a priori, au début se révolte, mais il dit ben, « c'est ta décision, c'est ton tempérament, je ne peux pas m'opposer à cela ». Et on va suivre alors pendant toute une partie du film le destin de cette femme seule dans cet ouest sauvage où cette ferme est isolée, mais proche d'un patelin où, évidemment, ben, une femme seule, ça attire pas mal de convoitises, vu qu'on ne sait pas du tout quand son mari va revenir de la guerre, s'il revient. Et donc, on va suivre le combat solitaire de cette femme pour se faire respecter pour exister dans ce monde extrêmement masculin. C'est à mon avis la principale originalité de ce film très classique et très contemplatif aussi. Le rythme est parfois... Enfin, il y a des scènes obligatoires de western, de règlement de compte, des scènes d'action, mais on est plus dans un film méditatif sur justement l'alchimie d'un couple et aussi le sort des femmes dans cet ouest américain au XIXe siècle avec un rôle... De premier plan pour Vicky Krieps, qui, une fois de plus, je trouve, prend la lumière et existe véritablement dans ce film. Alors, vous avez sans doute suivi l'actualité des festivals en Belgique et Viggo Mortensen a fait la surprise de venir au Festival du film d'amour de Mons, faire une petite visite un week-end pour présenter en personne ce film. Et c'est dans ces circonstances-là que je l'ai rencontré, et je l'avais déjà rencontré pour Falling, en plein Covid, et ce qui est évidemment extrêmement agréable avec cet artiste qui est également musicien, puisqu'il signe la musique du film, qui est photographe, enfin qui fait plein de choses, c'est qu'il est polyglotte et qu'il parle plusieurs langues, dont un français quand même assez fluide et assez châtié, et évidemment donc nous avons mené cette conversation en français, et je lui ai demandé, mais tout simplement, pourquoi un western, pourquoi cette envie, puisqu'il est lui-même le scénariste de son film, après Falling, pourquoi s'être relancé dans ce projet? On l'écoute.
Mon objectif, notre objectif comme équipe, c'était de faire un film en respectant le genre du western classique. L'idée, c'était de faire les choses de la meilleure manière, comme par exemple Howard Hawks ou des films de Bud Baedeker, Anthony Mann, et la chose peut-être inhabituelle ou différente, c'est que nous nous concentrons sur le personnage principal féminin et nous restons avec elle quand son partenaire masculin part à la guerre.
Vicky Krieps, vous l'avez choisie parce que elle a, d'abord, c'est une excellente actrice, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi un physique un peu rétro et pas trop contemporain ?
Elle est une vraie femme. Je pensais qu'elle pouvait donner l'impression d'être une femme de l'époque. C'est ça, oui, comme vous disiez. J'ai ressenti une qualité spéciale avec elle, unique, sans la vanité de quelques autres grands stars féminins. Et je pensais, on ne sait jamais s'il est disponible, si elle va aimer l'histoire, le personnage, mais on peut essayer. Mais l'idée, c'était, si elle veut le faire, on a l'opportunité de faire quelque chose de spécial.
Ce qui est formidable dans votre parcours, Viggo, c'est que je pense que beaucoup d'acteurs, après un triomphe mondial comme Lord of the Rings, comme Le Seigneur des Anneaux, auraient pu avoir une carrière confortable à Hollywood, profiter, rentabiliser ce succès. Et vous, au contraire, vous avez été de plus en plus vers l'aventure, vers la recherche, vers le cinéma indépendant. Il y a eu les films, évidemment, avec, avec David Cronenberg. Comment est-ce que vous avez décidé ça? Est-ce que c'est le résultat d'une réflexion? Est-ce que c'est le hasard? Comment est-ce que ça s'est...
Non, c'est... Bah, chaque personne est différente, mais je pense toujours que la vie est courte et qu'on a une chance pour raconter chaque histoire. Et le travail de faire la promotion, de parler avec la presse, comme avec vous, c'est le même travail. Il faut réfléchir, il faut travailler un peu, se préparer, essayer de parler intelligemment du travail. Et c'est mieux si on a fait quelque chose qu'on pense au début, que ça peut être quelque chose de spécial, original, que c'est intéressant. J'imagine que c'est beaucoup plus difficile de faire la promotion pour un film qu'on sait que c'est pas une grande chose. Et c'est pas toujours qu'un bon scénario, que le résultat est si bon comme le scénario. Il faut avoir de la chance. Il y a plein de facteurs qui entrent dans un travail d'équipe. La distribution, la promotion, le public, on sait jamais. C'est mystérieux. Mais on peut commencer avec une bonne histoire, au moins. C'est ça que je pense.
Vous voulez dire aussi par là que l'acteur peut se retrouver très vite prisonnier d'un système et très malheureux dans ce système?
Oui, peut-être. Ou content, si on veut gagner beaucoup d'argent et être fameux, avoir une vie confortable, on est peut-être content avec ce genre de voyage, mais ce n'est pas le mien.
Justement, quand vous regardez un peu en arrière, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier?
Bon, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des femmes, des hommes, des bons réalisateurs, et j'ai appris beaucoup parce que ça m'intéressait, je voulais apprendre. J'étais là, sur le plateau, quand on tournait, sans moi aussi, parce que je trouvais ça intéressant. J'ai pas l'habitude de rester dans la roulotte et tout ce que les autres acteurs sont en train de faire a un effet sur moi, sur mon personnage, et j'ai un effet sur eux. Il m'intéresse toujours ce qu'il fait, l'acteur, dans la scène. Et on apprend, si on regarde, on écoute, on pose de temps en temps des questions, on peut apprendre beaucoup. C'était pour moi une espèce d'école de cinéma. Et on apprend beaucoup des efforts maladroits aussi. On apprend peut-être plus des choses qui ne sont pas bien faites, Mais je pense que les deux films que j'ai faits en tant que réalisateur, j'ai commencé en disant à l'équipe, je reste ouvert aux suggestions, aux idées des autres. Et bon, on va faire le film ensemble, on va voir. Et c'est ça que j'ai appris de Cronenberg, de Matt Ross, de Jane Campion et tous les autres.
J'aime bien
Oui. Non, mais surtout, quel français absolument parfait, avec cette pointe d'accent tout à fait charmante.
Oui, et cette philosophie, tant qu'à devoir assurer le service après vente des films, autant ne pas devoir assurer le service après vente d'un navet dont on n'est pas fier.
Il y en a qui le font. Ouais, hein, voilà, on tient la liste des noms.
Oui,
à disposition.
Comme il dit, il y en a qui effectivement préfèrent être très très riches. C'est leur choix. Ce n'est pas mon chemin. Voilà. Et je trouve qu'il y a effectivement une intégrité chez lui qui mérite le respect. Véritable gentleman, et aussi, on a compris, qui partage. Pour la petite histoire, c'est quand même terrible, le système de production anglo-saxon par rapport au système français, parce que vous imaginez, en France, c'est tellement gorgé d'aide en tout genre que certains réalisateurs ou acteurs, franchement, assez médiocres, peuvent continuer leur carrière de manière assez calme. Et lui, chaque fois, il explique pour Falling, j'avais des difficultés à réunir les fonds, donc j'ai joué dedans parce que ça rassurait les investisseurs. Et chaque fois, une sorte de combat pour réunir le budget de la part d'un type qui a qui a quand même une filmographie avec des films, que ce soit Captain Fantastic.
Et qui pourrait profiter de l'argent des autres.
Voilà, c'est ça. Donc,
confortablement.
Donc on se dit, il est quand même dans un système extrêmement dur pour les le cinéma, justement, indépendant, le cinéma d'auteur, mais c'est la voie qu'il a choisie. Alors, ce film est, à mon avis, moins original et moins fort que Falling, qui était vraiment une pépite. Mais c'est un western très, très classique, mais malgré tout, il y a le duo et il y a, une fois encore, ce rôle féminin qui est très, très joliment dessiné. Donc là aussi, je donnerai, je continue avec mes cotations de balles de match, je donnerai volontiers 2 balles de match pour The Dead Don't Hurt, jusqu'au bout du monde, de et avec Viggo Mortensen.
Film que nous avons montré à Namur.
Namur, à la COD de Namur.
En COD. Prochaine COD, ça sera pour Stavelot le 23 mai, donc bientôt.
Voilà.
Bientôt.
Après le congé de printemps.
Après le congé. Dites, je raconte n'importe quoi. En fait, le manager de l'intégré...
n'est pas parti ?
Si, si, bien sûr, mais pas après 28 ans. Ça voudrait dire qu'il la manageait quand elle avait 10 ans. C'est après 18 ans. Mais dans l'emballement...
Non, mais de toute façon, les chiffres, pour vous, c'est difficile.
J'ai un problème
vous...
avec
oui,
les chiffres.
Oui, vous aimez...
Sinon, enfin, quand même.
Sinon, vous auriez éventuellement été mathématicien au bureau du plan. Hein, voilà.
C'est vrai. Enfin, 18 ans quand même. 36 jours avant le Coachella, je me casse. Ton histoire de moto, je la sens pas.
Sacré.
Et elle dit, mais on peut en discuter. Le type dit, non. Punaise. Oui, mais c'est quand même...
Mais c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein.
Peut-être.
Peut-être.
Peut-être. Bien, on continue le voyage dans la boîte à chatons. Donc là, ici, j'ai pris un petit chaton qui vient de Londres. Londres, et cette chanteuse s'appelle Lexi Carroll, après Nashville, Tennessee. Londres, UK, Lexi Carroll.
In the back of my skull, shrink down like a child. As you say, it's been a while, it's been a while.
It's been a while. C'est donc Lexi, non pas Lewis, hein, Carroll, mais Lexi
Carroll.
Et elle est londonienne.
Bien. Et du côté des plateformes, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oula!
Le numéro
Attendez. Woody Woodpecker?
Bah oui! Mais oui! Mais oui, évidemment. Enfin, je dis numéro 1 des plateformes jusqu'à ce que l'épisode 2 de Rebel Moon soit arrivé.
Oui, ça c'est gentil, j'ai donné dans le 1, je ne vais pas poursuivre.
Voilà, mais enfin, voilà. Ils vont tous toujours la première place. Woody Woodpecker, le film en live action qui est arrivé il y a quelques jours sur Netflix et qui donc est un film, évidemment, tout exprès pour un public captif pendant ce congé de printemps, à savoir les plus jeunes.
Mais à part notre génération, qui se souvient de Woody Woodpecker? Aux USA, c'est resté du patrimoine.
C'est énorme.
Oui. Parce que chez nous, ça a quand même disparu des radars depuis
Woody Woodpecker, c'est... Oui, c'est dès sa disparition de la télévision, mais je pense qu'il y a des chaînes thématiques aux États-Unis qui continuent à tourner ça en boucle.
C'est ça, parce que ça ne fait pas partie d'une grande écurie comme les Looney Tunes de Warner avec Bibi.
C'est vrai, ou même de Hanna-Barbera. Non. C'est un personnage de Walter Lantz. On voit souvent...
Walter Lantz.
Qui, et c'est son personnage emblématique. En fait, il, un peu comme les Schtroumpfs, Woody Woodpecker avait été créé pour venir en fait en renfort caisse à un personnage de ce producteur, de ce créateur de dessins animés, un personnage qui s'appelait Andy Panda et qui était un peu en perte de vitesse. Ah, il avait un autre personnage emblématique qui est Chili Willy, vous savez le petit, le petit pingouin. Voilà. Mais, et donc Woody Woodpecker est venu un peu comme un sidekick pour renforcer la série jusqu'à ce qu'il devienne assez populaire que pour avoir son propre show. Et c'est devenu un personnage de dessin animé terriblement emblématique aux États-Unis parce qu'il sortait un peu du cadre, il sortait un peu des concepts habituels du personnage un peu rond, un peu sympa. Ici, c'était un peu le Mockingbird, quoi. C'est l'oiseau moqueur qui fait que des bêtises, qui est plutôt agressif, qui va créer des tas de catastrophes et s'en sortir avec son fameux rire qu'on entend dans le générique.
Qui est un gimmick.
Qui est un gimmick absolu. Donc, Ce personnage de Woody Woodpecker est quand même une sorte de petit trésor qu'il faut choyer, qu'il faut quand même préserver et entretenir. Il y avait déjà eu un film en live action en 2010.
Ah, ça, aucun souvenir.
Et ici, ce film qui a pour nom Alerte en colo arrive directement sur Netflix et c'est... Vous connaissez
Vos goûts déviants.
Mes goûts déviants. Oui, oui, oui. Et j'ai quand même.
Vous avez une passion pour Yogi l'ours.
Oui. Mais tout ça vient de Smokey Bear, qui est donc l'ours des parcs naturels américains.
Oui.
J'ai une passion parc naturel, Rangers et Yogi l'ours.
Oui. Le seul personnage à petit chapeau que vous supportez.
Oui, c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Faut bien connaître.
Et donc, ici, on n'est pas dans Yogi l'ours live action où on avait quand même Danny Aycroyd, Justin Timberlake.
Oui, c'était du lourd. Souviens.
Anna Faris, on avait quand même du lourd. Oui. C'était très, très, très réussi. Hein,
c'était bien fait.
Yogi. Ouais. Ah, oui, c'était très, très réussi. Ici, c'est quand même un peu fait à la main gauche, avec les pieds. C'est quand même... Voilà, c'est un petit peu...
Mais c'est peut-être parce que les héritiers de Walter Lantz, qui a cassé sa pipe en 1994, ne sont pas assez regardants.
Oui, mais même les héritiers de Hanna-Barbera, si on prend les pierres à feu, on est en live action...
Avec John Goodman.
Avec John Goodman et Rick Moranis. Qui était... Il y avait une apparition des B-52s qui venaient chanter dans la caverne.
Oui, c'était bien.
On a eu aussi du Scooby-Doo.
Oui.
C'était un peu du semi-direct-to-DVD avec Sarah Michelle Gellar.
Oui.
Voilà, Scooby-Doo, le chien était en animé et les acteurs étaient, eux, en live-action. On sent... Je me dis, en voyant Woody Woodpecker, je trouvais quand même un personnage relativement emblématique qu'on aurait pu dépoussiérer, moderniser si on l'avait un peu soigné.
Ce live action, lui étant en 3D et il est avec des seconds couteaux qui lui donnent la réplique.
Exactement. Lui est intégré, il est numérisé, est intégré dans des décors naturels et avec des acteurs, avec de véritables acteurs, mais le personnage, lui, est numérisé. Je me dis, ils sont quand même sur des. Quand on voit le. Alors, c'est une autre approche, mais quelque part, la source est la même. Quand on voit le succès d'un Barbie. On se dit, il n'y a pas quelqu'un pour, à un moment donné, réfléchir sur ces personnages animés qui sont quand même terriblement populaires et qui ont marqué une époque.
Ils font partie du patrimoine.
Voilà, et d'avoir de super scénaristes qui se penchent sur vraiment le caractère du personnage, ses spécificités, comment essayer de l'amener dans une époque plus moderne avec les technologies actuelles, mais aussi avec des histoires qui collent à l'actualité et qui rendent un petit peu hommage d'une manière ou d'une autre à ces personnages. Là, on a un peu le sentiment qu'on a c'est comme si on l'avait collé sur un pot de yaourt. C'est un tout petit peu dommage. Et tout ça n'est pas non plus sans faire penser à ce projet qui est pour l'instant dans une armoire métallique à la Warner, à savoir Bip Bip le Coyote, le film en live action avec John Cena qu'on évoquait récemment. Ce film est terminé et c'est un classement en vertical.
Il
n'est
jamais
sorti. Je sais que des plateformes proposent beaucoup d'argent à la Warner en disant vendez-le-nous, nous on va en faire quelque chose sur la plateforme. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? C'est un mystère. Le film est terminé, le film existe et il ne sortira probablement jamais. Donc ils préfèrent brûler l'argent que d'essayer d'une manière ou d'une autre de quand même le rentabiliser ou de savoir ce qu'il pourrait en tirer en seconde main. C'est très, très, très curieux. En
tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un calcul fiscal devant ces films qui ne sortaient pas, c'est qu'ils pouvaient quand même mettre en avant les millions de dollars que ça avait coûté.
C'est ce qu'on appelle les pertes et profits. Ici, c'est une perte sèche, puisque aucun profit. Donc, ça permet effectivement de dans la colonne entrée et sortie, de faire sortir beaucoup d'argent qui ne rentre pas. Ça permet peut-être de rééquilibrer chez Warner pour payer moins d'impôts. Mais c'est quand même un peu énorme comme
explication. C'est pas le premier.
En
attendant, celui-ci est visible.
Celui-ci est
pour les esprits déviants.
Celui-ci est visible et manifestement, il y a un public. Vous disiez, ça représente encore quoi pour qui Woody Woodpecker? Manifestement, il y a quand même un public qui est au rendez-vous. Mais c'est quand même.
Ça a quand même fonctionné.
Ça fonctionne, oui, sur Netflix. Mais enfin, ce serait intéressant de savoir combien de personnes ont cliqué pour le visionner. Mais quelle est la durée d'écoute?
Et l'abandonner.
Voilà, qui a regardé plus de 10 minutes? Moi. Mais on doit être pas forcément très, 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 très
nombreux. Enfin, grâce à vous, on a entendu ce fabuleux générique et je me suis souvenu de la personnalité de Walter Lantz que j'avais complètement oblitéré depuis des années. Donc, quelque part, comme vous dites, perdu entre Disney, Warner, Hanna-Barbera, Chuck Jones, Walter Lantz, quoi.
Les Toons de Warner. Très bizarre. Moi, je suis un peu triste, dommage, voilà, de ne pas avoir un meilleur traitement pour un personnage aussi emblématique et iconique.
Vous ne feriez pas une pétition
peut-être. Oui. Je vais d'abord faire une pétition pour les jeunes chanteurs.
Après, sauver Willy, sauver Woody.
Peut-être.
Mais on va croire que c'est l'autre Woody qu'il faut sauver.
Et oui, vous savez qu'en plus, il y a... parce que Woody Woodpecker, il a une femme qui s'appelle Winnie Woodpecker. Donc, oui, c'est comme les Chipmunks et les Chipettes. Il y avait vraiment moyen de faire un truc, mais vraiment bien.
Ne manquez pas la conférence prochaine de Rudy sur Yogi, Woody, Woody et les autres. Pour l'instant, c'est dans un lieu tenu secret, mais je vous tiens au courant.
Oui, moi, ça me rend triste et je suis fâché parce que voilà, c'est.
Mais consolez-vous.
C'est de la maltraitance de Woody Woodpecker.
Mais consolez-vous avec un petit chaton.
Oui, hein, sort de sa boîte. Celui-ci vient de Miami. Petit château de Miami.
D'accord.
On est dans un autre registre musical. La jeune fille s'appelle Jane Bell et sa chanson a pour titre Mother 8. Mother 8, c'était Jane Bell.
Ça, c'est Miami.
Miami.
Oui, donc c'est le tout.
Florida.
C'est le tour du monde des
Nashville,
de la boîte à chatons.
On ira à Los Angeles. Après.
Très bien. Alors, parmi les sorties du 1er mai, de mercredi prochain, il y a un film français qui est signé par une personnalité quand même assez atypique de ce cinéma. Je veux parler de Pascal Bonitzer. Alors, Pascal Bonitzer, pendant... Pascal, non,
Pascal.
C'est un nom. Pascal Bonitzer. Pendant des années, il a été scénariste dans un cinéma d'auteur très, très estampillé d'auteur et très sérieux. Il a été scénariste pour André Téchiné.
Oh, il a la carte, alors.
Pour Jacques Rivette, voilà. Et puis, il a basculé vers la réalisation avec des films qui étaient beaucoup, beaucoup... où il a dévoilé un sens de l'humour qu'on ne lui connaissait pas. Il a signé un premier film avec Jackie Berroyer qui s'appelait Encore. Et puis, il a signé une véritable pépite qui s'appelait Chercher Hortense, que vous avez peut-être vu, où Jean-Pierre Bacri jouait, avait une relation père-fils extrêmement difficile avec son père qui était incarné par Claude Rich. Film, mais d'une. Probablement un des meilleurs films de Bacri en dehors de ce qu'il écrivait, de ce qu'il co-écrivait avec Agnès Jaoui. D'ailleurs, je me souviens que Bacri ne tarissait pas d'éloges sur les talents d'écriture de Bonitzer en disant si je pouvais écrire des dialogues comme ça. Enfin, il était vraiment très, 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 très laudatif. Et donc, dans il a tourné encore un autre film avec Bonitzer après. Et Bonitzer a révélé, donc, comme réalisateur et auteur de ses scénarios, un humour pince sans rire tout à fait bienvenu et qu'on ne lui connaissait pas. Et formidable dialoguiste. Et ça évolue toujours. Ben, vous disiez, il a la carte. Il vient clairement de milieux intellectuels parisiens, donc il décrit beaucoup plus. Il décrit des profs du NIF, des énarques. Voilà, il parle de ce qu'il connaît et des milieux qu'il fréquente, mais avec malgré tout une distance et un recul et un second degré qui est assez bienvenu. Et son nouveau film est assez attachant parce qu'il s'attache à un univers qu'on voit peu au cinéma, à savoir l'univers des salles de vente et des commissaires-priseurs. Et ça s'intitule « Le tableau volé ». Et on suit un commissaire-priseur dans une prestigieuse maison parisienne. Ce commissaire-priseur est incarné par Alex Lutz. Il s'appelle André Masson dans le film. Et il est contacté par une avocate de province à Mulhouse. Elle dit « Voilà, j'ai été moi-même contacté par une famille très modeste qui a un tableau, qui ont hérité d'un tableau, et d'après mes informations, ce serait un tableau d'Egon Schiele. » Le type tombe à la renverse, il dit « Absolument pas possible, tous les Egon Schiele sont répertoriés, ils sont dans les musées, il n'y a aucun tableau qui
inédit,
ça doit être un faux, mais évidemment, il est quand même piqué dans sa curiosité, et il va avec son ex-femme, mais qui est restée une collègue, une collaboratrice qui est jouée par Léa Drucker, voilà le duo qui se file vers Mulhouse, et qui...
Quoi, pour faire une contre-expertise
pour aller voir le tableau des Visous. Et ils tombent à la renverse parce que c'est un vrai. Et en fait, pourquoi ça s'appelle le tableau volé? Mais parce que Egon Schiele fait partie de ces artistes qui ont été vilipendés par le régime nazi, considéré comme de l'art décadent, et l'œuvre pourrait bien faire partie d'une spoliation, absolument. En fait, un riche amateur d'art juif se serait fait piquer la totalité de sa collection, une partie aurait été brûlée et quelques tableaux auraient été sauvés, dont ce tableau. Et en fait, la famille modeste qui possède ce tableau, elle en a hérité? C'est parce qu'elle a acheté la maison en viager et l'ancien propriétaire était, pendant la guerre, une attitude assez louche, visiblement, et assez collaborationniste, et apparemment aurait reçu, vu que les nazis considéraient que cette toile ne valait rien, aurait reçu ce tableau pour bons et loyaux services. Voilà, très bonne histoire, de très bon démarrage d'histoire, et très bon titre, donc le tableau volé. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va retrouver les héritiers du collectionneur d'art juif qui n'est plus de ce monde, à qui le tableau...
Ça, c'est comme dans La Femme en or, ou avec le Klimt...
Tout à fait, avec Hélène Mirren. Oui,
formidable.
Tout à fait. Voilà, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'était une histoire
vraie.
Ouais. Alors ici, c'est inspiré, c'est un collage de plusieurs histoires vraies. C'est librement inspiré d'une histoire vraie, mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ce tableau? Est-ce qu'on peut le mettre en salle de vente, qui va toucher quoi? Voilà, ça peut apparaître assez technique, mais c'est une incursion assez juste dans ce monde-là, dans ce monde très 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 fermé et très privilégié, avec en plus ici le choc de deux mondes, parce que cette famille de Mulhouse, le jeune gars, il y a une maman qui ne bosse plus et le fils qui est ouvrier de nuit, et ça leur tombe un peu dessus et ils n'ont pas du tout envie d'apparaître comme des spoliateurs, des profiteurs. Voilà, donc c'est une étude de caractère assez juste. Le talon d'Achille pour moi de Bonitzer, c'est que ça reste d'abord un très bon scénariste et un très très bon dialoguiste, parce que chaque personnage, on sent que chaque personnage parle comme dans son milieu aussi, je veux dire, c'est très juste. Alex Lutz joue cette espèce de commissaire-priseur qui, en fait, est un Rastignac. C'est un type qui a gravi les échelons avec une ambition dévorante et qui est devenu un arrogant parisien, plus que les Parisiens de souche. Il le joue très, très, très bien. Il y a, à côté de ça, justement, la famille très modeste qui... se demande s'ils ne sont pas en train de recevoir un peu Dieu le Père dans leur maison. Quoi. Ça, tout ça est assez bien vu. Simplement, je disais, le talon d'Achille de Bonitzer, c'est qu'il est plus scénariste, plus dialoguiste que réalisateur. Je crois qu'il a eu envie de réaliser lui-même ce scénario pour ne pas se faire déposséder, pour ne pas être trahi. Mais en même temps, il n'y a pas des idées de mise en scène. C'est parfois un petit peu plat. Mais je signalerai, mon cher Rudy, un peu sa semaine, que dans un second rôle, il y a carrément une participation étonnante d'Alain Chamfort.
Mais non.
Oui, qui joue un vieux papa.
Alain, il n'a jamais été autant présent qu'il a dit qu'il arrêtait.
Attendez, il joue un vieux papa un peu dépressif, qui mélancolique, d'une jeune stagiaire. Il a trois scènes. Il est absolument formidable. En fait, il est aussi formidable que Michel Delpech l'avait été dans Les chansons d'amour de Christophe Honoré, où il jouait le mari de Catherine Deneuve et où il devait en découdre avec un ancien amant joué par Miloš Forman. Formidable trio, extraordinaire. Et Michel Delpech, on a l'impression qu'il ne jouait pas, il était parfait. Eh bien ici, même chose, Chamfort, il arrive avec son grand manteau, ses lunettes et avec un air un peu dépressif. Il est vraiment très très bien. Alors je ne sais pas si une nouvelle... une nouvelle carrière s'ouvre à lui. Il peut pas prendre les rôles de Biolay, hein. Bon, parce que il n'a plus l'âge. Mais si jamais, comme Eddy, comme Monsieur Eddy tourne beaucoup moins qu'avant, hein, dit Mitchell, et en plus quand il tourne des mauvais trucs. Moi, je pense qu'il y a un créneau pour Alain Chamfort dans le cinéma français actuel. Donc, j'espère pour lui que le film va un peu marcher parce qu'il est vraiment tout à fait épatant et c'est très très bien joué. Comme c'est bien dialogué, ben ça aide. Quand c'est bien dialogué, c'est aussi bien joué. Donc c'est pas, ça ne tient pas toutes ses promesses.
Et ça sort quand ?
Et ça sort mercredi.
Ah, ce mercredi.
Ce mercredi, et donc ça s'intitule Le Tableau Volé. C'est le nouveau film, peut-être le dernier film. Il est plus tout jeune, Bonitzer. Hein, je pense qu'il a 78 ans aujourd'hui. Donc, mais faire un film qui soit encore, qui capte aussi bien l'air du temps. Voilà, donc je trouve que ça a des vraies qualités. Donc là aussi, c'est générosité pour le 1er mai. Encore 2 balles de match pour ce Tableau Volé de Pascal Bonitzer.
Très voilà. Bien. Voilà. Très, très bien. Côté boîte à chatons, là, oui. J'ai un duo.
Oui,
Ils s'appellent Véronica Von. Ils viennent de Los Angeles. Ils ont un look un peu aqua Barbie Girl. Surtout que ce duo qui est garçon-fille.
Mais ils sont très bien assortis au niveau couleur. Hein. Ils aiment le bleu et le jaune et ils se partagent. Ils vont chez le même costumier.
Certainement.
Ouais, ouais, ouais.
Le gars fait un peu penser à René de Aqua.
Oui, oh, oui, oui, oui.
Il a un petit côté René.
Oui.
C'est donc un duo. Il s'appelle Véronica Von, mais c'est un duo qui est mené par la chanteuse qui a pour nom Xuan Nguyen. Ils viennent de Los Angeles.
Los Angeles.
Véronica Von.
1, 2, 3, 4.
Véronica Von avec Party. Party is over.
Alors, en bref, je signalerai parmi les sorties de la semaine prochaine un film mexicain qui a été très très coté à Sundance, que je n'ai pas encore vu, qui s'intitule Radical. Et une fois de plus, c'est le monde de l'école, mon cher Rudy. Alors, on a eu Amal, on a eu le film Pas de vagues, on a eu le film La salle des profs. Et bien, cette fois-ci, un film mexicain où on découvre un prof qui, dans une région extrêmement violente, essaye de trouver une méthode radical, d'où le titre du film, pour libérer la créativité de ses élèves. Très coté à Sundance, très très bien coté dans la critique anglo-saxonne. Donc soyez vigilants, on en reparlera peut-être plus longuement à prévision. Donc Radical, ça sort aussi mercredi prochain. Voilà.
Très très bien.
Pour le tour des sorties.
Alors je parle de jeunes chanteuses venues pas complètement de nulle part, parce qu'on voit qu'à chaque fois, forcément, on vient bien de quelque part, mais elles ont encore beaucoup de chemin à faire. Alors, une sur laquelle j'aime revenir de temps en temps, c'est Florrie Arnold, cette fille qui joue de la batterie, mais qui n'a pas un physique de batteuse.
Oui.
Et donc, du coup, on reçoit du courrier en disant « Mais c'est quoi un physique de batteuse ?»
Oui.
Et qui a notamment travaillé pas mal avec... et elle était mannequin, voilà. Et elle a travaillé pas mal avec les Pet Shop Boys, entre autres. Et Florrie Arnold sort un album sur lequel il y a une chanson qui a pour nom Kissing in the Cold, dont l'intro n'est pas très très éloignée de l'univers des Pet Shop Boys. Florrie.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.